Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de votre fidélité hebdomadaire. J'accueille ce dimanche Fatima Besnassi-Lankou. Bonjour.
Bonjour.
Fatima Besnassi-Lankou va nous parler ce dimanche de son livre « Harki au camp de Rivesaltes, la relégation des familles, septembre 62 à décembre 1964 ». Ce livre vient de paraître en coédition « Le mémorial du camp de Rivesaltes » et des éditions Loubatière. Rappelez que nous nous connaissons, Fatima Besnassi-Lankou, quand je dis que c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. C'est évidemment très sincère dans la mesure où nous nous connaissons depuis bien longtemps. C'était lors de votre première sortie de livre qui traversait votre histoire, votre jeunesse, votre enfance d'abord. Vous êtes fille de Harki, c'est ainsi qu'est intitulé le premier livre que vous aviez publié dans cette écriture, dans cette histoire, dans cette mémoire de la... Alors quand je dis communauté Harki, ça vous plaît moins? Si je dis les Harki de manière générale, c'est déjà plus de sens pour vous?
Oui, certainement, parce que communauté, pendant la guerre, il n'y avait pas de communauté Harki. Hein. Elle s'est formée progressivement en France, et ce sont les camps en France qui ont fait que s'est créée cette communauté, disons, de destin, parce que c'est quand même avant tout des Français.
Une communauté, après tout, c'est un rassemblement de peuples, donc là, un peuple avec sa singularité, avec son histoire et avec...
Si c'est dans ce sens-là, oui.
Si c'est dans ce sens-là, voilà, c'est dans ce sens-là qu'il me semble important de souligner qu'il y avait là une... Comme il y a une communauté immigrée algérienne ou portugaise ou que sais-je, en tout cas, l'idée de communauté, c'est ce rassemblement qui fait que l'on se retrouve dans une même histoire partagée. Voilà, c'est un peu cette dimension-là. Donc ce travail, Fatima Besnassi-Lankou, vous présentez, donc vous êtes née en Algérie et vous êtes près de Cherchel et vous êtes aujourd'hui essayiste. Vous vivez en France, vous avez grandi dans ce camp de Rivesaltes et votre histoire, votre engagement, votre détermination et votre réflexion portent sur cette question Harki, peut-être, le dire aussi de cette manière-là, avec tout ce que vous avez écrit de livres sur les Harki dans la colonisation et ses suites, les Harki, les idées reçues, des vies, 62 enfants de Harki racontent. Je vous livre comme ça les titres des différents ouvrages de notre auteur invité. Fatima Besnassi-Lankou, votre intérêt plutôt que passion à cette histoire des Harki, c'est un intérêt pour que se sache aujourd'hui ce qu'ont traversé, ce qu'ont vécu en Algérie, en France ensuite, dans ces camps, dans le sud de la France, du côté de Perpignan ou ailleurs dans le Loiret, puisqu'il y a eu ici et là différents camps où se retrouvaient les Harki quand ils ont quitté en 62 l'Algérie. C'est important pour vous de l'écrire, c'est sûr, vous l'avez fait de nombreuses fois, vous avez aussi organisé de nombreux colloques et des expositions autour de l'expression artistique des Harki. Tout ça vous porte dans votre vie personnelle.
Alors écoutez, je ne sais pas si je le formulerai de cette manière-là, mais il y a eu tout un cheminement. Hein, vous avez rappelé mon premier ouvrage, hein, donc j'ai écrit il y a bientôt 20 ans. Donc ce cheminement a fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un tas d'idées reçues. Donc c'est ces idées reçues en fait qui me portent, qui me donnent envie d'écrire et de continuer. Et quant à l'ouvrage que vous présentez aujourd'hui, en fait, c'est une commande du mémorial du camp de Rivesaltes, puisque je suis membre du conseil scientifique.
On va présenter dans un instant, effectivement, le mémorial du camp de Rivesaltes, sur lequel nous nous étions rencontrés avec un historien et vous-même dans une précédente émission. Mais justement, tout ce cheminement, il est parti de fille de Harki, et qu'est-ce qui a déclenché l'idée d'écrire, le besoin, l'envie d'écrire votre histoire personnelle qui s'inscrit dans la grande histoire des Harki?
Alors, je vous dis...
Fallait toujours... passer par là d'abord avant
oui,
de...
Oui, absolument. Passer par là, en fait, ce n'était pas une volonté. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, tiens, je vais raconter mon histoire. D'ailleurs, ce que j'avais écrit et qui est devenu un livre, je ne l'avais écrit que sous forme de journal familial, c'était pour mes enfants. Et puis il y a eu un jour un président de la République algérienne, M. Bouteflika, qui avait été reçu en France donc pour un voyage officiel, hein, reçu officiellement. Et là, il a été particulièrement désagréable sur la question. Et ses propos m'ont donné envie, en fait, de donner mon point de vue. Donc voilà, de dire non, ce que vous dit ce président, c'est de la manipulation pure et simple. Il fait diversion en utilisant une question extrêmement sensible. De dire que, en fait, en Algérie, il faut se remettre dans le contexte. On était en 2000. Un an avant, il avait été élu. Quelques mois après son élection, il avait été élu, me semble-t-il, en avril 99. En septembre 99, il avait fait voter cette loi d'amnistie, hein, me semble-t-il, donc en faveur des terroristes, excusez-moi. Et donc, il me semble que le message qu'il avait donné au sujet des harkis, c'était vraiment pour dire au peuple algérien, vous savez, nous on est tous frères, maintenant il faut tourner la page des années noires du terrorisme. Au final, nos seuls ennemis sont les harkis. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en fait à ce moment-là. Et puis je me suis mise à écrire et puis je ne me suis jamais arrêtée.
Plutôt que la colère, écrire et témoigner de cette histoire des harkis, c'est ce que vous avez fait avec ce premier livre. Et sans cesse, vous avez continué ce travail en profondeur sur ces idées reçues dont vous parlez.
Oui, absolument.
Parce que les idées reçues, il y avait la société française aussi qui parlait. En France, on parlait des harkis, on se demandait qui c'était. C'était des traîtres, ils étaient relégués. Enfin, il y avait quand même une histoire douloureuse des harkis en France.
Oui, bien sûr.
Elle était d'abord en Algérie, et ensuite...
Oui, en France, dans les camps, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres familles qui ont vécu ailleurs que dans les camps. Hein. Par exemple, la région de Roubaix, dans le Nord, ils sont extrêmement nombreux. Ils ont vécu dans des conditions très difficiles aussi. Et ils ont milité aussi, dans les années 90 aussi, pour leurs conditions de vie. Je vous ai perdu.
Sur le fait que tout votre travail en profondeur était pour dénoncer les idées reçues, et puis parce que les idées reçues, il y en avait.
Je ne sais pas si je dénonce parce que c'est pas tellement dans ma personnalité, mais j'ai plutôt essayé d'aller creuser la question moi-même parce que. Moi, je ne détiens pas la vérité non plus. Hein. Donc, j'avais besoin de contact, j'avais besoin de lire, d'écouter, d'aller voir des historiens, de tisser des liens, d'aller vers d'autres associations. Par exemple, oui. J'ai milité pour les harkis, mais j'ai milité aussi pour le 17 octobre.
Oui, oui.
Donc, vous voyez, donc,
L'idée de dénoncer, c'est de dire que vous dites ça, mais voilà l'histoire. Même si vous ne détenez pas la vérité, vous êtes concerné. Vous êtes fille de harkis, vous êtes concernée. Donc, ce que vous avez à dire là est plus une certaine vérité quand même. Plutôt que c'est en ça que la dénonce.
Est-ce que, en fait, oui, bien sûr, on entend tous, on est une femme ou un homme honnête, on essaye de tendre vers la vérité, mais est-ce qu'on l'atteint vraiment? Mais je crois qu'il faut le faire vraiment avec beaucoup de conviction, avec des valeurs. Et à partir de là, on essaye d'éclaircir la situation, hein, de se dire, voilà, c'est une guerre d'une violence extrême. Comment est-ce qu'on reste zen, si j'ose dire, dans une telle guerre, hein? Et voilà, donc restituer ce qu'on a découvert soi-même, hein, donc soit par l'écriture, par des expos, en organisant des colloques, etc. Mais tout en continuant à se nourrir. Hein. Moi, 20 ans après, j'apprends toujours des choses. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, ça va être fini. Non, parce que à chaque publication, je me dis, voilà, j'ai fait appel à tel et tel historien, on a fait un livre collectif, on y a réfléchi, on a fait venir les meilleurs spécialistes, on les a réunis, on a passé 3 jours... je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que, si certainement, parce que vous nous aviez reçus pour une émission en 2008, ou pendant presque tout le mois d'octobre à Paris, on a parlé des harkis sous toute forme en fait. Et pourtant, après un mois,
tout n'était pas dit.
Tout n'était pas dit et tout n'était pas encore fait. Après, c'est sûr que sur un chemin, il y a aussi des très belles rencontres. Par exemple, alors je ne sais plus, c'était peut-être en 2005 ou 2008, j'avais croisé donc la route de Mohamed Harbi, donc voilà, historien et puis ancien dirigeant du FLN, qui d'ailleurs avait publié un article dans Le Monde quand j'avais publié Fille de Harki. Et qui a dit un certain nombre de choses dans cet article, et qui ont guidé mes pas après, mes pas de chercheur, puisqu'entre temps je suis retournée à l'université en fait pour approfondir encore plus, puis pour avoir accès aux archives, parce que ça c'était vraiment un besoin. Par exemple, j'ai fait tout un travail sur les harkis avec des archives qui sont à Genève
et les archives donc, de la Croix-Rouge
internationale, donc du CICR. Donc voilà, et tout ça, je vous dis, c'est des rencontres, des échanges. Voilà, c'est un chemin long. Et quand on voit qu'en Algérie, en fait, la question n'est pas traitée ou maltraitée, dans tous les sens, quand je dis maltraitée, je me dis, il y a du boulot encore.
Est-ce que vous faites là, c'est un terme qui revient souvent quand on fait un travail d'histoire, c'est pour vous un devoir de mémoire ?
Alors,
De transmission ?
Oui, mais il y a devoir. Et en fait, non, parce que c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Parce que si on revient à la source...
Bah oui, parce que vous en êtes.
Oui, mais devoir, c'est, je pense que... Se dire, voilà, moi, je dois faire de l'histoire, je dois raconter. Non, en fait, les choses se sont faites quasiment, j'allais dire, plus naturellement, plus automatiquement que, par exemple, le deuxième livre, ça a été un livre fait sur les femmes.
Nos mères, nos blessées.
Nos mères, paroles blessées.
Paroles blessées.
Voilà, ces femmes, en fait, je les ai rencontrées après le premier livre. Et... j'allais dire comme ça, naturellement, certaines m'ont dit, tiens, moi, si je savais écrire, c'est pas deux ou trois pages, j'écrirais 1000 pages. Mon histoire est tellement incroyable, j'ai tellement vécu de misère, j'étais depuis ma naissance, j'étais dans la période coloniale française, j'étais dans une famille extrêmement pauvre. Ensuite, j'ai subi la guerre. Arrivée en France, on m'enferme dans des camps, etc. Donc, et j'ai fini par leur dire, écoutez, si vous ne savez pas écrire, si vous voulez, moi, je peux le faire à votre place.
On va revenir justement sur ce travail que vous faites d'histoire, d'archives, de témoignages. D'hommes et de femmes qui se livrent, qui se racontent, et c'est de ça qu'on va parler maintenant, puisque ce livre, Harkis au camp de Rivesaltes, la relégation des familles, septembre 62, décembre 64, Fatima Besnassi-Lancou, vous nous donnez à lire et à connaître un éclairage sur ce que sont les histoires d'hommes et de femmes qui ont vécu dans ce camp de Rivesaltes. On vous retrouve dans un instant et vous nous raconterez justement comment se sont collecter ou en tout cas les rencontres avec les uns et les autres qui ont accepté de se livrer dans votre livre qui, je le rappelle, vient de paraître aux éditions Loubatière en coédition avec le mémorial du camp de Rivesaltes. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons ce Voix au chapitre. Ce dimanche, je rappelle que je reçois Fatima Besnassi-Lancou. Nous parlons de Harkis au camp de Rivesaltes, la relégation des familles, septembre 62 à décembre 64. Ce livre vient de paraître aux éditions Loubatière, en coédition avec le mémorial du camp de Rivesaltes. Il s'agit là d'un ouvrage, Fatima Besnassi-Lancou, de témoignages. Il y a près de 17 témoignages environ.
Oui, c'est ça.
C'est 17. Ça. Hein, qui, des hommes et des femmes racontent de l'enfance, de leur vie en Algérie jusqu'à cette traversée pour se retrouver en France dans ce camp de Rivesaltes dans cette période de 62 à 64. Elle sera plus ou moins longue selon les témoignages et elle sera d'une sensibilité, d'une émotion, moi, qui m'ont beaucoup touché sur leur histoire de ces hommes et de ces femmes. Alors peut-être nous rappeler, en première partie de notre rencontre, vous évoquiez effectivement que vous aviez déjà travaillé sur ces questions de mémoire, enfin de témoignages avec ce livre Nos mères, paroles blessées, mais on verra qu'il y en a eu d'autres, hein, 13 Chibani Arki, enfin, vous êtes très attachés à ce que vont vous restituer ces hommes et ces femmes Arki dans leur histoire. Et j'aimerais savoir comment vous avez collecté ces témoignages. Il y a des témoignages, ils sont cités en fin de d'histoire dans le temps. Bon, certains datent de sont assez anciens, ils datent de 2006. On peut tristement penser que ces hommes ou ces femmes ne sont plus là, vu leur âge. Mais d'autres sont plus récents, 2011, 2017. Voilà, des témoignages qui y étaient à la fois ou dans vos tiroirs, ou en tout cas qui vous rappellent qu'il faut les écrire.
Oui, c'est ça. En fait, oui, 17 personnes. Hein, donc il y a des femmes, des hommes, ce qu'on appelle la première génération. Mais il y a aussi des témoignages de leurs enfants.
De leurs enfants, oui.
Oui. Malheureusement, 4 de ces 17 témoins n'ont pas vu le livre, hein, parce qu'ils sont décédés entre-temps, dont un descendant, qui est mort prématurément, hélas. Voilà, en fait, c'est vrai, bon, vous le rappelez très bien, certains ces témoignages datent d'il y a 10 ans, voire plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille en fait sur une collecte de témoignages depuis une quinzaine d'années. Donc, il est vrai que j'en ai maintenant plusieurs centaines. Et en fonction des besoins d'un ouvrage et de l'accord des familles, bien entendu, on les publie. Et dans ce cas, il y avait un paramètre important, c'est que ces familles soient passées par le camp de Rivesaltes. Voilà pourquoi, en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est d'être passé donc par ce camp, parce qu'il y avait d'autres camps de transit. C'est-à-dire que lorsque les gens ont fui l'Algérie et sont arrivés en France, ils ne sont pas forcément passés par le camp de Rivesaltes, même si c'est le plus emblématique d'entre eux, parce qu'il y a eu un peu plus de 22 000 personnes qui sont passées dans le camp. Fin 62, en décembre 62, le camp de Rivesaltes, dans le camp de Rivesaltes, pardon, il y avait pas loin de 10 000 personnes. C'était la deuxième ville des Pyrénées-Orientales.
Ouais.
Voilà. Donc, effectivement, ces personnes, je les ai... Alors, comment je les ai rencontrées? Alors, c'est... moi-même, j'ai passé
dans le camp de Rivesaltes.
Voilà. Oui. Moi, j'ai ma première année en France, je l'ai passée donc dans le camp de Rivesaltes, 62-63. Mais on a fait d'autres camps qu'on a appelés des hameaux de forestage, des petits camps. Il y en avait plus de 70.
Sur tout le territoire?
Sur tout le territoire, et principalement donc dans la région PACA.
Le camp de Bias, il est situé, lui, dans le Lot-et-Garonne.
Alors, le camp de Bias, c'était un camp particulier.
Pas loin de Villeneuve-sur-Lot, c'est ça?
C'est pas loin d'Agen, oui.
Pas loin d'Agen, oui.
Exactement, c'est dans le Lot-et-Garonne. Voilà, et ce camp qui a été extrêmement dur, hein, celui de Bias, d'ailleurs beaucoup de familles de Rivesaltes ont quitté le camp pour aller donc à Bias. Et ce sont des personnes dans l'administration pensaient qu'elles ne pouvaient pas travailler parce que blessées, parce que trop âgées, etc. Donc on les a rassemblées dans deux camps, soit à Bias, soit à Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard. Et à mon sens, ce sont deux camps qui sont des vrais scandales. Un jour ou l'autre, ça se saura qu'il y a eu jusqu'à la fin des années, enfin au milieu des années 70, des gens la jour et nuit. Il faut des autorisations pour entrer, sortir. On les a classés, enfin, comme des inclassables, irrécupérables. Enfin, c'est juste absolument scandaleux. Voilà.
Et c'est ce qu'ils décrivent les uns et les autres hein, sur cet sentiment d'être. On verra dans une deuxième partie de notre discussion encore cet abandon qu'ils ont eu de la France, parce qu'ils en parlent. Ouais. Quasiment tous, hein, de cet abandon, mais avant de cette souffrance, d'être là, d'avoir cru qu'ils allaient être plus, mieux considérés pour ce qu'ils avaient fait pour la France, et pourtant ils ont été dans le plus grand mépris, et dans des conditions de vie peu de sanitaires, enfin surpopulation dans le camp, etc. Donc tout ça, quand ils se livrent à vous, ils racontent toute cette souffrance, c'est dire c'est qu'elle elle est dans leur vie toujours, enfin elle a traversé leur vie cette souffrance.
Oui.
Mais en après fait, en être sortis, ils en sont encore.
Oui, en fait, c'est plus complexe que ça. Dans leur tête, c'était pas tant je vais être bien considérée ou je vais être mieux accueillie parce que j'ai fait ou je me suis engagée.
Enfin, certains le disent en tout cas.
Oui, mais vous faites bien de le souligner. Mais bon, ce qui est marginal parce que cela. Mais c'est surtout d'aller dans un pays en fait. C'était la France, c'était un pays riche, un pays où il y avait du travail, où on pouvait se soigner, etc. Mais là-dedans, dans leur tête, moi je ne vois pas beaucoup de différence avec ceux issus de l'immigration. Quand ils partent, quand un Kabyle quitte son village et qu'il est extrêmement pauvre et qu'il a peut-être juste une ou deux chèvres, et quand il arrive en France... il s'attend à ce que ça soit quelque chose de plus. Enfin, il ne s'attend pas, en tout cas, à être dans un bidonville à Nanterre, par exemple. Mmh. Voilà, je pense que c'est plus ça que de se dire oui, même si certains le disent et vous faites bien de le souligner. Hein, mais moi, si vous voulez, en tant que entre guillemets spécialiste, parce que je pense que
oui, de tout ce que vous avez entendu, il y a d'autres choses.
Voilà, il y a c'est plus. On va aller dans un pays où matériellement on aurait un peu plus d'aisance, disons, et puis surtout pouvoir se soigner et puis être logé correctement, ne pas arriver en France et d'être sous des tentes, passer l'hiver 62-63 sous des tentes, accoucher sous des tentes, voir son bébé mourir de froid. Enfin, c'était très très loin de l'idée que se faisaient donc ces paysans de ce qu'était la France. Ça, c'est clair.
Ce camp de Rivesaltes, les camps en général, petite parenthèse pour nos auditeurs qui comprennent la situation de ces camps, ils ont fermé totalement quand ? En quelle année ?
Alors, il y a eu un décret pour les fermer en 76.
Ah oui, j'ai...
Voilà. Mais c'est un décret. Hein, donc ça, c'est ce qui est fait, j'allais dire, c'est la théorie. Mais se fermer, ça s'est fait progressivement. Voilà, donc, et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, il y a encore deux hameaux de forestage, donc des petits camps, où il y a encore des personnes qui y vivent. Alors, bien sûr, elles ne sont plus administrées par une administration de tutelle, comme à l'époque, mais ce sont des personnes âgées et qui ne veulent pas être déracinées. Dans un qui est à Fuveau, il y a à peu près 25 familles. Donc là, c'est quand même assez important. Et puis un autre à Colobrières, dans le Var, où il y a une famille. Une famille où, quand vous arrivez, il y a une dame qu'on a mis là en 62 ou 63. Et puis le matin, elle sort ses poules. Elle a un four traditionnel comme à la campagne en Algérie. Et puis elle est très très loin de la ville, très loin de tout.
Parce qu'on va rappeler, que le camp de Rivesaltes, comme tous les autres, était un camp fermé où il y avait à l'intérieur un centre de santé ou une école, une mairie, une administration. Enfin, on pouvait imaginer, on pouvait peut-être se dire que les gens qui habitaient là n'avaient pas besoin de sortir. Ils étaient relégués dans ce camp.
Alors, oui,
quand ils sortaient, il y avait le mépris, il y avait le regard, il y avait même eu des propos très, très haineux. Hein, devant un café, j'avais lu de vous, d'un autre auteur qui avait travaillé sur cette question des harkis, ici, on ne sert pas les harkis ou quelque chose de cet ordre-là.
Quoi. Ah oui, c'est une scène que vous avez vue dans le film Harkis.
Oui, voilà.
Voilà,
oui,
ben voilà. Où on voit, oui, c'est une fiction, mais c'est tout
c'est tiré de la réalité,
là.
Oui, oui.
Bien sûr. Mais c'est là, ça, c'était pas le harki, en fait, qu'on voulait pas servir. C'était le bougnoul qu'on voulait pas servir. À mon avis, hein, ça aurait pu être un gars du FLN ou je ne sais pas qui, enfin, ou de l'immigration, tout simplement, quelqu'un d'autre. Voilà, je crois que c'est. Après, le racisme, c'est encore autre chose. C'est un autre débat donc, qui vient se rajouter, si vous voulez, à cette histoire. Oui, c'était un lieu fermé. Alors, ce n'est pas des camps d'internement. Faire attention, ce sont des camps de relégation. Même si dans les archives, notamment dans les archives militaires, on retrouve un document qui dit, envoyé par le Premier ministre au ministre des Rapatriés, au ministre des Armées plutôt, excusez-moi, disant vous ne les laissez sortir que pour des raisons importantes. Voilà. Donc, il y avait une surveillance constante. Mais c'est vrai que bon, il y avait tous les attributs d'un camp. Hein. Il y avait des fils barbelés. Voilà. Et alors, toujours pareil, donc, pas camp d'internement, camp de relégation, parce qu'on a tendance parfois à comparer ça avec les camps de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens, les républicains espagnols, les juifs, les tziganes, sont morts de faim. Ils ont eu ce qu'on a appelé la cachexie, excusez-moi, qui est une maladie de la faim, qu'on n'a pas eu. Les familles de Harki, elles ont été très bien nourries, enfin, normalement nourries, très bien nourries, excusez-moi, je retire ce mot, nourries normalement, voilà. Mais ce qu'elles ont en commun avec la Seconde Guerre mondiale, c'est le lieu qui est extrêmement froid l'hiver, très très chaud l'été, le manque d'eau, donc forcément, qui dit manque d'eau, manque d'hygiène, donc toutes sortes de maladies ont proliféré là-dedans, il y a eu la tuberculose, il y a eu des décès prématurés d'enfants ou de personnes âgées ou de personnes faibles sur le plan de la santé. Il y a eu, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, la misère d'être enfermé, de ne pas savoir ce qu'ils allaient devenir. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, de se dire, bon, on arrive d'Algérie, on nous a mis dans des camions, on nous a dirigés vers des camps, et là, pour sortir, il faut remplir deux conditions, avoir un travail donc, et un logement. Mais comment trouver un travail et un logement quand on est dans un camp et puis qu'on ne connaît personne à l'extérieur? Et puis quand il y a la barrière de la langue française, ils ne parlaient pas forcément tous français. Donc tout ça a été quelque chose, comment dire ça, a été éprouvant. Ça, c'est clair que c'était extrêmement éprouvant pour ces populations.
Quand je déroule le livre là des histoires singulières de ces hommes et de ces femmes marquis dans ce camp de Rivesaltes, il y a en ouverture du texte, il y a une image. Vous leur avez demandé une photo qui les représente dans le camp. Je vois par exemple que là, Monsieur Lazouzi pose devant la stèle au camp de Rivesaltes et ensuite son histoire se déroule. Elle est évidemment comme toutes les autres histoires très très douloureuse. Il explique tout cela et il y a aussi de Rabat Mehnaoui sa carte d'identité, la carte d'identité harki de son père. Parce qu'il y avait une carte d'identité spécifique.
Alors, en fait...
Parlez-nous de ça, parce que je découvre ce document administratif-là.
Oui, en fait, c'est un document intéressant, hein, parce que lorsque on m'a demandé d'illustrer ce livre, je voulais des photos, effectivement, ou de famille, mais quand il y avait des documents un peu particuliers, novateurs, et puis qui puissent apporter quelque chose au lecteur, donc ça, j'avais fait le choix de demander à Rabat. Et effectivement, certains régiments, hein, pas tous... où certains chefs de Harka ont eu l'idée pendant la guerre de leur faire cette carte d'identité. Alors, la signification exacte est encore en cours, j'allais dire, de recherche, parce que c'est extrêmement étonnant. Est-ce que c'était une manière de les rassurer? Est-ce que c'est une manière d'appuyer sur une identité?
Voilà, c'était aussi les reléguer à nouveau d'une certaine manière.
Enfin, pas à nouveau, parce qu'ils n'étaient pas encore relégués.
Oui, mais administrativement, j'entends.
Oui, mais c'était avant. Mm-hmm. C'était avant l'indépendance de l'Algérie, ces cartes. Ces cartes n'ont pas été faites au camp de Rivesaltes. Hein. Elles ont été faites avant.
Ah d'accord.
Oui, oui.
On vous retrouve, on aurait encore beaucoup à dire, on va vous retrouver dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche Fatima Besnassi-Lankou et nous parlons de Harki au camp de Rivesaltes, la relégation des familles de septembre 62 à décembre 64. Ce livre vient de paraître aux éditions Loubatière en coédition avec le mémorial du camp de Rivesaltes.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
L'invité de Voix au chapitre ce dimanche est Fatima Besnassi-Lankou. Nous parlons de Harki au camp de Rivesaltes, la relégation des familles de septembre 62 à décembre 64. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Loubatière en coédition avec le mémorial du camp de Rivesaltes. Alors, parler du mémorial du camp de Rivesaltes, on va s'y arrêter si vous le voulez bien, Fatima Besnassi-Lankou, parce que il est un lieu mémoriel, évidemment, puisqu'il va traverser l'histoire, ce camp. Vous l'avez évoqué en parlant des républicains espagnols, mais il y a eu d'autres personnes qui ont été enfermées là, puisque là, il y avait de l'enfermement. Après, il y a eu de la relégation, comme vous l'avez souligné. Mais aujourd'hui, il est un camp mémoriel. C'est important, ça, d'inscrire dans la mémoire collective ce que furent les lieux où l'histoire de France a été traversée.
Oui, alors c'est pas tout le camp, parce que le camp est immense. Hein. Il est sur deux communes, hein. Salles-le-Château et
Une partie d'un territoire, en tout cas, voilà, où était le camp de Rivesaltes.
Absolument, il fait 600 hectares. Hein. Donc ces 42 hectares ont été achetés par la région Languedoc-Roussillon pour en faire en fait un mémorial. Et depuis 2015, c'est ouvert donc un lieu de mémoire. Et c'est devenu effectivement cette partie qui est l'îlot F, hein, un lieu de mémoire, j'allais dire collective, mais je ne sais pas si c'est le terme exact. Mais en tout cas, ce lieu est témoin en fait de trois sortes de guerres. D'abord, une guerre civile, la guerre d'Espagne. Voilà, donc. Ensuite, un autre genre de guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, une guerre de décolonisation, même plusieurs guerres de décolonisation. Parce qu'il y a aussi, par exemple, des Guinéens qui sont passés par le camp de Rivesaltes. Mais ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre. Et puis, là-dedans aussi, on avait incarcérés. Là, ce n'était pas des internés, c'était vraiment des gens qu'on avait jugés, incarcérés. C'était des militants du FLN. Donc d'avril 62 à juillet 62, donc tout de suite après les accords d'Évian, on les a sortis de prison et puis on les a emmenés dans le camp de Rivesaltes. Donc c'est un lieu qui a une histoire juste assez incroyable, hein, là-dedans, puisque effectivement, tout à l'heure je le disais, donc il y a eu le républicain espagnol, les tziganes, les juifs.
Vous faites partie aujourd'hui, Fatima Besnassi-Lankou, vous faites partie du conseil scientifique du mémorial de Rivesaltes, avec d'autres historiens, d'autres personnes qui travaillent sur, qui a cette réflexion autour de ce que doit être un lieu de mémoire à la portée du public, d'un grand public d'ailleurs. Hein. Tout le monde peut aller visiter le mémorial, les jeunes avec leurs enseignants, les familles. C'est important, ça. Ces lieux qui existent, comme existe le mémorial de Caen sur une autre histoire, une autre période d'histoire où existent d'autres lieux mémoriaux. Au jour d'aujourd'hui, on visite donc le camp de Rivesaltes. Comment ça se passe?
Oui, alors juste une petite chose. Je suis au conseil scientifique en tant qu'historienne, hein, avec un doctorat d'histoire, et non pas en tant qu'ancienne, parce que on peut pas être au conseil scientifique
conseil scientifique.
Je le dis parce que je me suis rendu compte un jour que
c'est votre savoir d'historienne qui vous conduit au conseil scientifique. C'est pas parce que vous êtes fille de Harki.
Parfois, moi je l'ai vu, hein, en s'imaginant que c'est parce que j'avais été enfermée dans ce camp que je suis là-dedans.
Non, c'est
juste
vous...
une petite parenthèse. Hein, et je reviens donc effectivement le mémorial du camp de Rivesaltes, c'est un mémorial. Hein, et non, un musée. Il n'y a pas des choses complètement figées. On rentre, il y a un objet, il y a des affiches. En fait, c'est un lieu assez vivant. Hein. Donc, effectivement, où il y a... c'est quasiment un centre de recherche. Il y a des expositions, mais pas des expositions seulement permanentes. Il y a des événements quasi... quotidiennement, hein, ou voir... donc, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple. On invite, par exemple, des auteurs. Il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de la lecture. Il y a des films qui sont projetés avec des débats. Et il y a même à Rivesaltes, il est organisé parfois des contes qui sont...
Enfin, un certain nombre d'activités se font là-bas.
Oui, c'est un lieu, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas un musée, mais un mémorial.
Alors, on va peut-être faire connaissance avec l'une des témoins, hein, de votre livre, puisqu'il y a 17 histoires singulières d'hommes et de femmes, je l'ai dit et redit. Mais c'est important de souligner que, alors, il en est une... Elle s'appelle Aïcha, mais alors qu'elle n'est...
Aïcha Cousineau, voilà. Berkane.
Voilà, elle est la fille, elle est fille de Harki, elle vit aujourd'hui aux États-Unis et elle raconte son histoire. Vous nous rappelez de alors, ce qu'elle évoque dans...
Alors Aïcha, donc, elle a connu le camp de Rivesaltes, mais elle a également connu le camp qui est très dur, dont je parlais tout à l'heure, le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise.
Saint-Maurice-l'Ardoise, oui.
Voilà, donc elle avait un papa qui est tombé gravement malade, et qui a carrément disparu de leur vie pendant plusieurs mois, puisqu'on l'a sorti du camp de Rivesaltes pour le soigner, pour l'opérer. Et elle s'est retrouvée avec ses frères et sœurs à vivoter dans le camp de Rivesaltes. Et ça a été doublement douloureux pour elle. Et donc Aïcha, qui a une forte personnalité, hein, c'est une vraie rebelle qui est toujours à rechercher des solutions pour survivre. Et je pense que c'est une vraie résiliente. Hein. Et dans le camp de Rivesaltes, ce qu'elle raconte, c'est qu'on l'a envoyée en colonie de vacances, donc en dehors du camp. D'ailleurs, ce n'est pas la seule. Il y a aussi des fils de Harki qui m'ont raconté aussi leur colonie de vacances. Mais dans le cas d'Aïcha, on les a envoyés dans un lieu tenu par des bonnes sœurs. Et elle décrit des choses absolument épouvantables. Hein, qu'on l'a enfermée dans les toilettes pendant 24 heures, privée de nourriture... On lui a même fait un jour manger le vomi d'un autre enfant.
D'un autre enfant.
D'un autre enfant. Donc là, elle a vraiment... Aïcha. Mais Aïcha, elle a une vie assez extraordinaire maintenant. Elle s'en est très bien sortie. Elle vit auprès de son mari, de ses enfants, petits-enfants, donc en Floride. À la fin des années 70 ou au début des années 80. Donc, elle a rencontré son mari qui est médecin de l'armée américaine et elle est partie donc vivre aux États-Unis.
Et un jour, c'est la fin de son histoire, rapidement, un jour on a proposé aux États-Unis, on a proposé à son mari, qui était médecin officier de l'armée américaine, d'aller en Algérie pour 2 ou 3 ans. Il a refusé pour moi, dit-elle, parce que j'avais promis à mon père de ne jamais y retourner. Donc voilà une histoire où cette femme ne va pas retourner en Algérie. D'autres ont fait une tentative d'aller en Algérie, hein, il y avait dans les témoignages. Et puis il y a aussi, on a très peu de temps, vous allez conclure, Fatima Besnassi, Lankou, il y a aussi ceux et celles qui veulent, pour leurs enfants, retourner au camp. Ça aussi, c'est important d'aller sur les traces de leurs parents ou de leurs grands-parents. Dans ce camp de Rivesaltes.
Oui, Rivesaltes est un lieu emblématique de l'histoire des Harkis. Si on devait donner un nom, un seul nom de ces camps, c'est celui qui reste dans la mémoire collective, hein, c'est Rivesaltes. Donc aller à Rivesaltes, c'est presque une sorte de pèlerinage en fait pour certaines familles. Et leurs descendants demandent aussi à connaître ce lieu.
Et vous-même, vous êtes retourné à Rivesaltes avec vos enfants?
Non.
Non?
Non. Je n'ai pas sauté le pas, peut-être que je le ferai un jour, mais au moins pour voir ce mémorial, parce que le camp petit à petit disparaît, les baraquements tombent, donc je pense que...
Les baraquements n'ont pas été rasés?
Tous n'ont pas été rasés, c'est la nature qui fait son travail, hein, donc les murs tombent, les uns après les autres. Il y a encore 10-15 ans, quand on arrivait dans le camp, on avait des baraquements à perte de vue. Donc, on voyait vraiment ce que c'était qu'un camp. Et au fil des années, en fait, ces baraquements disparaissent. Voilà.
Quel est votre nouveau projet d'historienne, de chercheuse sur cette question de qui vous rappeliez en début d'émission que il y avait toujours à faire et à poursuivre ce travail en profondeur. C'est qu'est-ce qui vous reste à faire que vous n'auriez pas fait sur cette question, Arki Fatima Bestassilankou?
En fait, à chaque ouvrage, je me dis c'est le dernier parce que ça demande beaucoup d'énergie. Je pense qu'il faudrait un livre pour les enfants. Ça n'a pas été fait, mais je ne sais pas si j'ai le courage de m'y atteler un jour, peut-être avec un ou une spécialiste de la littérature jeunesse, parce que ça ne s'improvise pas. Moi, je pourrais servir,
de conseillère.
De conseillère. Et alors, je pensais avoir terminé, et la ville de Mouans-Sartoux, où il y a le festival du livre de Mouans-Sartoux, cette ville qui a accueilli une cinquantaine de familles de harkis dans les années 60, à partir de 1964, m'a commandé donc un travail, un ouvrage sur l'histoire de ces familles qui, ça sera peut-être la transition, arrivées de Rivesaltes, du camp de Rivesaltes. Elles se sont installées dans le village de Mouans-Sartoux. Elles ont fait souche. Ils sont des arrière-petits-enfants. C'est de raconter cette histoire sur la longueur. Pas vraiment, ça ne sera pas l'histoire de la guerre d'Algérie ou du camp de Rivesaltes, mais c'est plutôt ce que sont devenues ces familles qui sont venues s'enraciner à Mouans-Sartoux en 1964.
Arki, au camp de Rivesaltes, la relégation des familles de septembre 62 à décembre 64, c'est le titre de l'ouvrage de Fatima Besnassilankou. Elle est-elle invitée de ce Voix au chapitre ce dimanche? Ce livre vient de paraître aux éditions Loubatière, en coédition avec le mémorial de Rivesaltes, du camp de Rivesaltes. Merci, merci infiniment Fatima Besnassilankou. On se retrouvera pour ma part la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Voix au chapitre sur Beurre FM.